Terre, le 18-20.
Le 18-20 en édition spéciale. Ce soir, on revient sur l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Il devient le 8e et plus jeune président de la 5e République et d'ailleurs même de toutes les autres. On en parle évidemment. On essaye aussi de déplier ensemble, amis auditeurs, les grandes questions soulevées par cette campagne folle. L'élimination d'un FN qui n'a pourtant jamais été aussi haut. Le poids considérable de l'abstention des votes blancs et nuls. Les législative qui constitue une prochaine et complexe étape. Enfin, la recomposition politique à droite et à gauche. Les sujets sur la table du téléphone sonne sont extrêmement nombreux. Intervenez au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Telson.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Et je salue en ce lundi 8 mai Sophie qui nous appelle de Paris. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir à tous. Pour moi, il s'agit d'un commentaire. Je suis extrêmement fâchée, et pour tout dire furieuse, d'entendre sur vos antennes qu'il s'agit d'une très large victoire d'Emmanuel Macron, qui a obtenu 66%, la plus large victoire après Jacques Chirac, etc. Mais écoutez, si l'on additionne les abstentionnistes et les votes blancs, il y a quand même 36% des Français qui n'ont pas voté pour lui, sans compter ceux qui ont voté par défaut, dont le nombre n'est pas négligeable. Alors, il faut parler de 66% des suffrages exprimés, il les a, mais enfin, c'est sa large victoire, mais non, c'est une victoire extrêmement fragile, dont j'espère bien d'ailleurs que les législatives ne lui permettront pas d'avoir une majorité confortable. Je voudrais dire aussi que je n'ai pas entendu la déclaration, je n'ai pas entendu sur votre antenne, peut-être l'ai-je pas entendu d'ailleurs, la déclaration de Pierre Laurent qu'il a faite dimanche soir, où il appelle au rassemblement, et on a donné celle de Jean-Luc Mélenchon, dont je suis une électrice, donc je trouve ça très bien, mais pourquoi n'a-t-on pas donné celle de Pierre Laurent?
Alors je ne peux pas vous répondre sur ce dernier point, Sophie, mille excuses, hein, j'avoue humblement ne pas savoir. Merci en tout cas pour cette intervention sur le paradoxe d'un président mal élu, entre guillemets, on va y venir. Sylvain Crépon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, maître de conférences en sciences politiques à l'université Tours, membre de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès, spécialiste de l'extrême droite. Dominique Méda, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue spécialiste du monde du travail, vous avez conseillé Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle. On termine ce tour de table avec Françoise Fressoz, bonsoir.
Bonsoir.
Éditorialiste politique au quotidien Le Monde. Sophie n'est pas la seule au standard à nous dire attention, attention, il y a eu 66% hier, mais ça ne fait que 43% des exprimés. Et au fond, une fois qu'on a fait toutes les soustractions, Emmanuel Macron est mal élu. Françoise Fressoz, que dire à notre auditrice?
Bon, moi j'ai plutôt en tête ce qui s'était passé en 1969, où Georges Pompidou avait été élu avec une très forte abstention, 31,15% des voix et une très forte proportion de votes blancs et nuls, 6,42%. Je n'ai pas le sentiment que, sous la présidence de Georges Pompidou, il y ait eu un procès en légitimité. Le président de la République a été élu dans les conditions qui étaient les siennes, mais il a été élu. S'agissant d'Emmanuel Macron, il ne faut pas aussi oublier le caractère extrêmement novateur de cet homme qui n'était pas élu et qui, d'un coup, s'est mis à faire turbuler le système politique. C'est normal qu'il y ait de la résistance et notamment de la résistance de ceux qui étaient incarnés les partis, la droite, par exemple les électeurs de François Fillon. C'est tout à fait normal qu'ils aient eu du mal à se reconnaître dans Emmanuel Macron, de même que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise. Ce qui est tout à fait vrai dans cette élection, c'est que l'écart entre les deux finalistes du deuxième tour et ceux qui étaient en troisième et quatrième position, c'est-à-dire François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, a été historiquement faible. Si bien que les électeurs au deuxième tour ont eu beaucoup de mal à se reporter. Entendez ce que disait Jean-Luc Mélenchon, on a raté la victoire à quelques centaines de milliers de voix et voilà, et il a eu beaucoup du mal à le digérer. Donc c'est normal en réalité que sous cette élection il y ait autant d'abstention et de vote nul parce que on est face à un phénomène de recomposition politique qui entraîne des résistances, mais je pense que à partir du moment où le président de la République les prend en compte, sa légitimité d'élu n'est pas remise en cause.
Dominique Méda. Que dire à Sophie?
Je suis assez d'accord avec Sophie quand elle emploie, je crois, le terme de fragilité. Hein, c'est-à-dire que il y a un doute dès le premier tour sur les 24%, dans la mesure où ce qu'on a entendu, hein, c'était que plus de la moitié quand même des personnes avaient voté, non pas par adhésion, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire que même ce premier tour s'est fait à l'ombre, à l'ombre des sondages et de Marine Le Pen déjà. Donc oui, je suis assez d'accord. Et cette fragilité, c'est évidemment ce qu'on va retrouver là dans les semaines qui viennent avec les législatives et puis avec les mesures qu'il va prendre.
Sylvain Crépon.
J'abonde un peu dans ce que dit Dominique Méda, mais en plus, il faut voir qu'il y avait quand même 11 candidats au premier tour, qu'aucun ne s'est détaché véritablement au premier tour pour arriver au second. Donc j'ai envie de dire, quel qu'eût été le candidat qualifié ou élu président de la République, de toute façon, il n'aurait pas eu une légitimité fondamentale, puisqu'il aurait nécessairement déplu, ça aurait été un vote par défaut. Donc j'ai envie de dire, oui, Emmanuel Macron, mais si ça avait été Jean-Luc Mélenchon, si ça avait été Marine Le Pen, si ça avait été François Fillon, je pense qu'on aurait dit la même chose. Donc, je rejoins ce que dit Françoise Fresseau, c'est vraiment la spécificité de cette élection plus que la personne ou ce qu'incarne spécifiquement Emmanuel Macron.
C'est-à-dire la fracturation totale du pays.
La fracturation totale, moi j'irais pas aussi loin que ça, mais effectivement, je pense qu'on est dans une phase de recomposition politique. Il est encore trop tôt pour dire ce vers quoi on se dirige, mais en tout cas, il y a une réorganisation des identités politiques aujourd'hui, une remise en cause partielle, j'insiste là-dessus, on reviendra peut-être là-dessus dans la discussion sur les clivages gauche-droite, qui est peut-être en train, pas de disparaître, mais de se redéfinir, de se recomposer, et c'est aussi ça qu'il faut prendre le temps de digérer.
Pierre, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons, bienvenue dans le téléphone sonne.
Merci. Écoutez, c'était juste pour m'étonner que, alors qu'on est quand même passé à côté d'une véritable catastrophe politique et économique, et qu'on a assisté à un exploit digne des plus grands exploits sportifs, si on veut prendre cette image, eh bien on assiste à une apathie, enfin une absence d'enthousiasme, c'est un euphémisme, à part les soutiens directs, il n'y a pas eu de concert de klaxon dans les rues, quoi que ce soit de ce type, à part les choses bien organisées. Est-ce que ça signifie pas que finalement les Français eux-mêmes, en dehors des appareils, proprement dit, ne sont pas culturellement encore prêts à abandonner ce clivage partisan.
Merci beaucoup, Pierre, pour cette question. Françoise Fressos vous répond.
Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord la personnalité d'Emmanuel Macron, qui est un ancien banquier d'affaires, qui incarne d'une certaine façon la réussite, mais aussi l'argent, et que donc pour une partie de l'électorat français, c'est une personnalité qui est difficile à digérer. Ensuite, je suis allée relire un peu ce qui s'était passé en 1958 en France, là où il y avait déjà eu une récomposition politique. Il n'y avait pas du tout un climat d'euphorie non plus. Hein. Souvenez-vous, on a tellement dit à De Gaulle qu'il y avait eu le coup d'État de De Gaulle. Donc, dans ces périodes de recomposition politique, il ne faut pas imaginer qu'il y a un élan extraordinaire vers le vainqueur. C'est si vous voulez la confrontation entre des systèmes un vieux système qui est en train de mourir, quelque chose de nouveau qui émerge. Macron, il a pris un risque inouï. Enfin, ça, il y a un an, il était ministre. Il a construit un mouvement. Il a rompu avec le président de la République qu'il avait fait. Et donc, oui, il a réussi d'une certaine façon un casse extraordinaire sur le système politique français. C'est un peu normal qu'il n'y ait pas cette espèce d'adhésion parce que les gens le regardent en disant mais qui est cet homme? Puis alors, il y a peut-être aussi la crainte du bonapartisme qui quand même reste présent en France, c'est-à-dire ces personnages qui osent tout.
Un exécutif très fort.
Voilà. Est-ce que c'est pas une poigne de fer et un bonapartiste?
Sylvain Crépon, Pierre nous disait peut-être que les Français ne sont pas encore prêts au dépassement du clivage gauche-droite, du clivage partisan classique. Nous y voilà donc au cœur de cette conversation sur la recomposition de cette structure fondatrice quand même de la vie politique française.
Elle est fondatrice et je pense qu'elle n'a pas disparu. Lorsqu'on fait toutes les enquêtes d'opinion et qu'on demande par exemple aux Français s'ils peuvent se positionner sur le clivage gauche-droite, il y a 80% des Français qui peuvent très bien spontanément se positionner sur ce clivage gauche-droite. Donc ce clivage, il n'a absolument pas disparu. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres formes d'identification politique qui se superposent à ce clivage. Donc il y a le clivage par exemple identitaire, le clivage par rapport à l'Union européenne, le clivage par rapport à la mondialisation, et donc tout ça fait que finalement ça brouille un petit peu les repères, mais contrairement contrairement à ce qu'on entend souvent de façon un peu rapide, il n'y a pas cette disparition de l'identité gauche-droite. Ça, elle est toujours structurée sur des questions aussi bien économiques, sociales que également sociétales.
Mais quand un président de la République, puisqu'il a été élu hier, Sylvain Crépon, dit qu'il se place au-delà de ce clivage, que ce clivage-là est parfaitement dépassé, est-ce qu'il n'organise pas justement l'effacement du clivage fondateur de la vie politique française?
Il y a deux choses. Je pense qu'il y a Marine Le Pen qui s'inscrit au-delà de ce clivage, droite-gauche, et Emmanuel Macron, j'ai l'impression qu'il s'inscrit avec ce clivage. C'est-à-dire que lui, il dit « je suis à la fois gauche et à la fois droite. Je prends à gauche, je prends à droite », mais il ne dit pas en quelque sorte « je subvertis ce clivage ». Tandis que Marine Le Pen, elle est complètement dans la subversion de ce clivage. Elle veut lui substituer son projet de reconfiguration de la démocratie autour d'un clivage identitaire, qui serait d'un côté les mondialistes, comme elle dit, ou les européistes, ou même les cosmopolites, et de l'autre côté, il y aurait les patriotes et ceux qui sont plutôt attachés à la préservation de l'identité nationale. Donc là, oui, on peut dire que c'est la volonté véritablement d'en finir avec ce clivage. Emmanuel Macron, c'est encore quelque chose d'un peu différent, d'un peu complexe. Il n'appelle pas à la destruction, à la fin de ce clivage, mais à une forme de compromis, en quelque sorte, de faire avec les bonnes volontés des uns et des autres pour arriver à une sorte de synthèse.
Oui, c'est ça, une dialectique plutôt qu'une opposition.
Voilà, c'est comme ça que je le vois en tout cas.
Dominique Méda.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Sylvain Crépon, j'ai envie d'aller encore plus loin et de dire que, enfin moi, il me semble que c'est bien parce que ce clivage gauche-droite a été effacé, notamment par la politique qui a été menée par la gauche ces dernières années, ces dernières années et peut-être depuis plus longtemps, qu'on a eu une telle montée de Marine Le Pen. Donc moi, l'effacement droite-gauche, je pense que, un, il n'a pas disparu dans la tête des gens, mais que, deux, lorsqu'on l'oublie, lorsqu'on ne le respecte pas, il entraîne véritablement des catastrophes telles que celles qu'on a vues avec la montée de Marine Le Pen. C'est exactement la même chose qu'aux États-Unis. Parce que, quand même, Hillary Clinton est apparue comme quelqu'un qui n'était pas vraiment à gauche, représentant les couches populaires et capable de les défendre, qu'on a eu l'élection de Trump, il me semble.
Françoise Fressoz.
Moi, je conteste un peu l'analyse dans la mesure où vous avez eu une sorte de règlement à gauche qui s'est passé avec, par exemple, le fait que Benoît Hamon soit arrivé très largement en tête de la primaire de la gauche. S'il avait été vraiment en phase avec ce que demandaient les Français, je pense qu'il aurait, à ce moment-là, obtenu un bon score à la présidentielle. Ce qui me frappe chez Emmanuel Macron, c'est que c'est un homme qui se revendique libéral. Ce qui est assez rare dans le système politique français, où le libéralisme, le dernier qu'il a vraiment incarné, c'était Valéry Giscard d'Estaing, puis ça a échoué. Emmanuel Macron, il part de l'idée que il y a un libéralisme qui peut être de gauche et de droite, un libéralisme des mœurs et un libéralisme économique, en phase d'ailleurs avec la mondialisation. Donc par rapport à ce clivage gauche-droite, je pense qu'il en introduit un nouveau, qui est de dire, face à l'Europe telle qu'elle est et face à la mondialisation, il peut y avoir un courant libéral qui soit en phase avec cette mondialisation, mais qui soit pas non plus une atteinte totale au modèle français, vous voyez. Et en ce sens, il y a vraiment un clivage nouveau qui se structure contre Marine Le Pen, qui, elle est dans le repli des frontières, et ce qu'elle appelle le patriotisme face à une France mondialisée.
Nouveau tour de table, et puis on retourne au standard. Dominique Méda, Sylvain Crépon.
Le social-libéralisme, c'est pas du tout nouveau. Bon, c'était Blair, c'était Schröder. Souvenez-vous, le manifeste.
En France, c'est très nouveau.
D'accord. Mais le manifeste Blair-Schröder, souvenez-vous du coup de tonnerre, parce qu'on avait Jospin qui était tout d'un coup repoussé comme l'homme de gauche, et puis tout ce social-libéralisme qui s'est répandu. Et moi, enfin, tout ce que raconte Macron, ça me fait énormément penser à ce que disait Blair, quand même. Le discours de la liberté, de la responsabilité. Bon, est-ce qu'on considère que Blair a réussi? Est-ce que la suite logique de Blair, c'est pas le Brexit? C'est ça qu'il faut voir.
Sylvain Crépon.
Moi, juste un dernier point. Moi, j'ai tendance à penser que l'échec de Marine Le Pen, il est dû en partie au fait qu'elle a oublié le clivage gauche-droite et qu'elle s'est adressée autant aux électeurs de François Fillon qu'à ceux de Jean-Luc Mélenchon et peut-être même davantage à ceux de Jean-Luc Mélenchon, alors que son potentiel électoral, il est situé avant tout à droite. C'est-à-dire que ses électeurs, dans leur immense majorité, se définissent par une identité de droite et peut-être qu'à mon avis, elle ne s'est pas suffisamment adressée à ses électeurs et qu'en voulant transcender les clivages, et ben justement, elle a réduit son score.
La parole à René. Bonsoir, vous nous appelez de Saône-et-Loire. Bienvenue. bienvenue sur France Inter.
Oui, alors je voulais simplement dire que j'ai 60 ans de militantisme à gauche derrière moi, plus de 40 ans au PS, et que j'aimerais bien qu'on ait élu un président jeune qui a réussi en un an quelque chose que personne n'a réussi. Peut-être les gens sont-ils jaloux, justement. Et qui donne une image au monde d'une France nouvelle. Et ce que je voudrais, c'est surtout, surtout qu'on le laisse un peu travailler. Après, on verra. Mmh. Mais qu'on ne fasse pas déjà des procès d'intention avant. Je crois qu'il y a déjà des gens qui défilent à Paris aujourd'hui. Mmh. Enfin, voilà. Voilà.
René, vous dites 60 ans de militantisme à gauche.
Que je suis pas jeune.
Non, je voulais pas dire ça. Je voulais vous poser, non pas une question personnelle, mais une question politique. Vous le situez où, Emmanuel Macron, sur l'échiquier politique, depuis cette expérience militante?
Eh bien, moi, je pense qu'il va renverser quand même un peu... il va renverser un peu les codes, je pense, et il va mettre des gens tout à fait nouveaux, je crois, et je pense que ça donnera une manière de respirer. Mmh. Je crois que, au point de vue économique, oui, il est un peu à droite, mais est-ce que... Il est quand même pour la protection quand même des plus faibles, je crois quand même.
Permettez-moi une dernière question, René. Comment avez-vous vécu le discours qui a occupé une certaine partie de la gauche après le premier tour sur le ni-ni ? Nous ne voterons ni Macron ni Marine Le Pen.
Je m'entends vous dire que j'ai été très, très en colère.
Et vous avez parlé autour de vous pour...
Ben, comme j'ai pu, parce que... Oui, enfin, je peux pas vous expliquer tout, mais je suis un peu isolée maintenant, obligée. Mmh. Mais bon. Mais autrement, oui, je suis même allée manifester toute seule contre des gens qui tractaient pour le Front National. Mmh. Voilà.
Merci beaucoup, René, pour votre intervention. Laissons le faire. C'est à ça qu'on mesure quand même qu'on a changé d'univers. Ce qu'on appelait les états de grâce avant, qui pouvaient durer plusieurs mois. Maintenant, ils durent même pas une minute trente. Ce qui est quand même totalement fou, non, Françoise Fressoz?
Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas d'état de grâce. Il y avait déjà une manifestation à la République cet après-midi, notamment CGT, pour mettre en garde contre l'ordonnance qui vient réformer le marché du travail. Donc effectivement, il n'y a pas d'état de grâce. Et je pense qu'il y a énormément de choses à renouer dans la vie politique française et que ça se joue à plusieurs niveaux. Il y a d'abord, je pense, la rénovation politique, c'est-à-dire cette idée qui s'est installée que les élus s'en mettaient plein les poches, qu'ils étaient impuissants. Et là, il a quand même la carte à jouer du renouvellement politique. Moi, ce qui m'a frappé hier en regardant les télévisions, c'était les élus qui avaient plus de 40, mettons 50 ans, ils n'avaient pas plus beaucoup de chance dans le nouveau paysage politique. Il y a quand même un effet du fait de l'élection d'Emmanuel Macron, un effet renouvellement très important.
Oui, ou dégagement.
Exactement, un dégagement très important. Donc on va avoir quand même une Assemblée nationale extrêmement renouvelée, des pratiques politiques qui vont sans doute changer dans la mesure où il y aura un besoin de résultats très forts et que je pense que si Emmanuel Macron veut pas rater son coup, il ne faudra pas qu'il s'entende avec telle ou telle tendance, mais que ce sera un cahier des charges avec des résultats et sinon vous dégagez. Donc ça, je pense qu'il y a une demande très forte. Après, il y a une demande des résultats, ça c'est, à mon avis, c'est le maillon faible, parce que avant qu'il y ait des résultats dans toutes les réformes de structure qu'il va engager, ça risque de prendre du temps. Et après, il y a une façon de s'adresser au peuple et de faire vivre cette démocratie qui, au fond, a été un peu amputée par le quinquennat, dans la mesure où le Parlement a eu beaucoup de mal à s'exprimer. Puis on voit monter aussi une demande citoyenne, des gens mécontents, exaspérés. Comment essayer de leur reparler? Il y a eu un déficit d'explication sous ce quinquennat. Est-ce qu'Emmanuel Macron, un peu comme le faisait Delors au moment du plan de rigueur de 83, où il s'exprimait chaque semaine, où il donnait des engagements, où il disait voilà où on en est, est-ce qu'il peut rétablir ce dialogue démocratique? Ça va être une des interrogations du prochain quinquennat.
Notre auditrice Renée, Dominique Méda, disait que, et c'est le cas, une manifestation avait lieu à Paris aujourd'hui pour refuser le projet de réforme du marché du travail par ordonnance. Je rappelle que vous êtes spécialiste du monde du travail. Comment voyez-vous déjà cette première manière de faire? Nous allons procéder par ordonnance sur ces sujets-là.
Ben, c'est vrai que, alors, je rejoins René, c'est-à-dire que, bien sûr, il faut laisser travailler, il faut faire un peu confiance. Et là, la rue est en train de faire un petit peu pression pour orienter. Mais c'est vrai que cette décision de prendre par ordonnance un certain nombre de décisions, elle me semble en fait doublement gênante. Elle me semble gênante sur la forme et sur le fond. Sur la forme, parce que, quand même, c'est sur des sujets qui ont mis la France à feu et à sang. Il y a quand même la question de la loi Larcher, hein, de 2007, qui dit que chaque fois qu'on va toucher aux questions de travail, emploi, forme, prof, il faut de la concertation avec les partenaires sociaux. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis la gauche est contre, quoi. Et alors, sur le fond, ce qui me paraît plus embêtant, c'est que moi, alors vous allez me dire, bien sûr, j'étais très heureuse que Macron soit élu hier et j'ai bien sûr voté pour lui. Mais c'est vrai qu'au premier tour, j'étais pas complètement dans.
Vous étiez avec Benoît Hamon.
Absolument, voilà. Je soutenais Benoît Hamon et je continue à trouver que son programme était vraiment très très sérieux et le meilleur. Mais ce qui me gêne donc dans cette histoire d'ordonnance sur le marché du travail, c'est que je crois que ça répond absolument pas au problème. C'est-à-dire ces ordonnances, elles s'appuient sur l'idée que notre vrai problème, c'est le code du travail. Je pense que c'est absolument pas le code du travail. Et donc, j'ai peur que ces mesures, elles ne permettent pas, elles n'aient pas l'ampleur nécessaire pour répondre, alors au vrai problème, à la réelle question sociale qui est devant nous et qui explique la montée de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il faudrait prendre, en effet, des mesures très fortes, des grands plans massifs d'investissement dans la transition énergétique, une Europe sociale, l'Europe sociale tout de suite. Voilà, il faudrait des très grosses mesures et je trouve pas que ce soit en facilitant le licenciement ou en encadrant les dommages-intérêts pour le licenciement abusif qu'on va avancer, quoi.
Un mot, Françoise, puis Sylvain Crépon.
Je pense qu'en fait, on n'a que le inversant de la politique d'Emmanuel Macron. En fait, très clairement, le pari qu'il fait, c'est d'essayer de construire un deal avec l'Allemagne. Il l'a sans arrêt dit dans l'entre-deux-tours, on est avec l'Allemagne, pas contre l'Allemagne. Donc l'idée, c'est essayer de faire les réformes, quelques réformes structurelles, formation professionnelle, marché du travail, et en retour, d'essayer d'avoir ce que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire un plan d'investissement massif soutenu par l'Europe et qui puisse remettre un peu de grain à moudre dans la machine et qui puisse montrer qu'on peut aller de l'avant.
Oui, mais alors pourquoi les ordonnances, du coup?
La difficulté, c'est... Alors, après ça, les Philippe ordonnances...
Philippe Aguillon, l'économiste qui travaille aux côtés d'Emmanuel Macron, l'a dit il y a 15 jours sur France Inter. Mmh. Les réformes de structure, il faut les faire tout de suite, sinon elles n'ont aucun effet pendant un quinquennat. Et sur ce genre de sujet, a-t-il dit très simplement, pour pouvoir aller vite, il faut procéder par ordonnance. Il a dit, j'ai beaucoup de respect pour le travail parlementaire, mais la précédente fois, loi El Khomri, ça a duré 2 ans, et ça s'est complètement enlisé. Donc, pour une question d'efficacité, on procède par ordonnance. Voilà ce que dit Philippe Aguillon, je livre ça...
Mais des réformes... Non, mais on connaît ce que raconte Philippe Aguillon, mais une réforme structurelle qui, en gros, empêche les juges, les conseils de prud'hommes de faire leur boulot, moi, je suis pas sûr que ça soit la solution, quoi. Mais bon, voilà.
En tout cas, voilà le raisonnement. Vous voulez dire un mot, Sylvain Crépon ?
Non, juste un mot. Moi, je vais pas aller dans le technique, mais plus dans le symbolique par rapport à ce que dit René, qui me semble très intéressant, c'est que Emmanuel Macron, ça a été un des premiers depuis des décennies à faire une campagne positive. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est un peu nouveau, dont on avait perdu l'habitude. On avait souvent des campagnes faites sur le déclinisme, avec une sorte de catastrophisme ambiant. Et c'est le premier... Alors, c'est un peu paradoxal. C'est le premier qui fait une campagne très positive et qui, en même temps, ne définit pas d'horizon d'attente. Et ça, c'est un petit peu paradoxal. Et ouais. Ça, je me demande un petit peu comment il va s'en sortir avec ça, parce que c'est vrai qu'il a un effet d'entraînement. Il y a beaucoup d'attentes de sa part. Et en même temps, ce qu'il propose n'est pas vraiment encore très bien palpable. Alors peut-être qu'il garde ça pour après.
Dans une semaine ou après les législatives.
Mais je pense que c'est assez symptomatique.
Bertrand, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Vous nous appelez de Haute-Normandie.
Oui. Alors, ce qui vient d'être dit est merveilleux. Moi, j'ai voté, je suis un vieux, j'ai 67 ans.
Bon, ça
j'ai,
va.
J'ai voté Monsieur Fillon au premier tour, parce que je pensais qu'il avait un bon programme. Au deuxième tour, je lui ai dit qu'est-ce que je vais faire, mais je vais quand même pas voter Macron, parce qu'il est un peu de gauche. Moi, je suis droite depuis perpète. Enfin, tu crois, parce que je suis libéral et j'aime me débrouiller, j'aime me battre, voilà. Mm-hmm. Et en fait, je me suis réveillé, c'est pas possible, mais il faut changer tout ça. Donc j'ai voté Macron avec un grand bonheur, parce que cet homme-là, il rassemble, En fait, quand vous attaquez quelqu'un, vous perdez. Quand vous l'aimez, vous gagnez. Qui que ce soit, y compris Marine Le Pen. Et en fait, pour gagner, bah, il faut rassembler les gens. Et Macron, les classes, les histoires de sectes, de machin. Mais oui, mais je vais marcher avec toi. Ça n'a pas de sens, c'est fini tout ça. Le monde a changé.
Et vous avez l'air en pleine forme, Bertrand.
J'ai une grosse pêche, oui.
Ah, vous avez une grosse pêche, là. Vous êtes heureux, donc, ce matin. Vous êtes un électeur heureux.
Non, c'est pas ça.
Ou un citoyen heureux.
Attendez, même vous, les journalistes, le monde a changé. C'est un nouveau monde qui va se faire. Il y a un nouveau monde qui est différent. Il bat de l'aile, ce garçon-là. Il a des petites ailes. Il va faire comme il va pouvoir, mais ça va pas être facile pour lui. Mais il faut l'accompagner parce que le monde a changé. Il y a le monde de la rancune, de la rancœur. Et il y a le monde de l'amour qui arrive. Ça, ça change tout. Et Macron, c'est le monde de l'amour, ça se voit tout de suite.
Mmh. Merci beaucoup Bertrand pour cette intervention. Sylvain Crépon avait raison. C'est aussi, ça se joue aussi à ce niveau-là. Françoise, comment recevez-vous ce très beau témoignage de Bertrand,
bourré d'énergie. Moi, je suis absolument d'accord avec lui. Quelque chose se passe au niveau de l'optimisme et d'une certaine partie de la France qui a envie de s'en sortir. On l'a vu aussi sous le quinquennat, c'est-à-dire on a vu quand même une sociologie changer. On a vu aussi beaucoup de jeunes entrepreneurs, on a vu l'ubérisation, donc on a vu que une partie de la société était changée en profondeur, qu'une grande partie était aussi en adéquation avec la mondialisation et que Emmanuel Macron, d'une certaine façon, il donne un visage à cette France. Alors après, il y a des inconvénients, c'est que par exemple, le soir du premier tour, où il remporte, il est en tête, on voit qu'il jubile, il est content, il incarne presque jusqu'à l'excès cette France qui marche bien. Le soir du deuxième tour, il a compris qu'il faudrait qu'il rassemble les deux, c'est-à-dire qu'on irait de l'avant, mais qu'il fallait pas oublier les autres. Et je pense que c'est ça va être ça, sa grosse difficulté, c'est de pas incarner jusqu'à l'excès cette France qui marche bien et qui, en fait, on est littéralement coupé en deux en ce moment.
La parole à Najat de Salon de Provence. Bonsoir Najat, bienvenue.
Bonsoir, merci beaucoup. Moi, je vous appelle parce que j'aimerais partager mon sentiment. Nous avons assisté hier à un moment historique, non pas par la présence du Front National au deuxième tour, parce que c'est quelque chose que nous avons connu en 2002, mais par l'adversaire qui n'était ni de gauche ni de droite, donc qui n'appartenait pas à ces partis que l'on connaît depuis de nombreuses années. Et honnêtement, on a fait un choix, et je me réjouis complètement de ce choix. Mais aujourd'hui, je m'interroge sur les étapes suivantes et notamment sur les législatives. J'ai entendu ce matin, à travers différents médias, que les Français ne souhaitent pas lui accorder une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ils parlent de cohabitation ou d'attribuer cette majorité à d'autres partis. Et moi, j'aimerais comprendre deux choses. La première, c'est comment est-ce que l'on a pu faire le choix de ce changement pour les élections présidentielles, et comment est-ce que qu'on continue de s'inscrire dans un certain conservatisme pour les étapes d'après, et surtout, comment est-ce qu'on va pouvoir évaluer son bilan si on ne lui laisse pas une majorité aux législatives qui lui permettrait d'agir.
Merci beaucoup Najat pour cet ensemble de questions, des questions absolument massives. Est-ce que les législatives peuvent donner une majorité à Emmanuel Macron ? Est-ce que tous les déçus de la présidentielle ne vont pas vouloir prendre leur revanche ? Alors c'est valable pour Benoît Hamon, c'est valable pour Jean-Luc Mélenchon, c'est valable pour le Parti Les Républicains, c'est valable pour le Front National. Quel chemin là après l'élection quand même d'un président de la République dont on se demande s'il va pouvoir agir, Françoise Fressoz, Dominique Méda, Sylvain Crépon.
Alors, c'est tout à fait normal d'assister à ce qu'on a vu hier soir, c'est-à-dire qu'on a une recomposition politique avec des forces qui évidemment ne veulent pas disparaître dans l'affaire et qui vont résister autant qu'ils peuvent. Donc on a vu François Baroin essayer de prendre la tête du Parti Les Républicains pour dire non, Emmanuel Macron, il a peut-être été élu, mais enfin, la droite, elle reste majoritaire dans le pays et on va lui imposer une cohabitation. On a vu ensuite tout un jeu à gauche très intéressant où Jean-Luc Mélenchon, 7 millions d'électeurs au premier tour, essaye de s'imposer comme le chef de la gauche, le chef de l'opposition de gauche. Et puis on a vu Marine Le Pen qui effectivement n'a pas atteint les 40% qu'elle visait, mais qui au fond a quand même augmenté 3 millions ses voix et qui dit « je vais faire une entrée massive à l'Assemblée nationale et c'est moi qui vais imposer l'opposition de droite et qui imposera à la droite après de se soumettre à ce que je veux ». Alors, qui décidera au bout du compte? L'électeur, encore une fois. Donc on peut pas accuser les anciens partis d'essayer de faire de la résistance. Le choix, il appartient à l'électeur. Est-ce que l'électeur a envie de donner une majorité absolue à En Marche? Est-ce qu'il veut un peu panacher en mettant une majorité relative? Ce à quoi je crois pas, c'est une cohabitation, parce qu'il y a quand même une logique très forte dans la recomposition. Mais en tout cas, c'est ça qui va se jouer aux législatives, c'est qu'est-ce que l'électeur français va laisser comme marge de manœuvre à Emmanuel Macron ?
Dominique Méda, je le redis, vous étiez l'une des conseillères de Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle. Comment voyez-vous cette question de la majorité aux élections législatives ? Est-ce que les socialistes autour de Benoît Hamon doivent se battre pour éviter ça ? Comment vous regardez ce problème ?
C'est ce qu'on a quand même vécu pendant la campagne, c'est-à-dire pendant la campagne, ça a été très compliqué pour Benoît Hamon. Pourquoi ? Parce que d'un côté, une partie du PS est partie. De l'autre, il a été dépassé sur sa gauche par Mélenchon. Donc il s'est retrouvé en effet dans une toute petite niche. Et ça continue. Enfin, ça risque de continuer en effet aux législatives. Et donc on risque d'avoir un paysage extrêmement fragmenté. On voit que qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche, pour que la gauche soit peut-être sinon majoritaire, mais une bonne place à l'Assemblée. Il faudrait qu'en effet, là, tout de suite, il y ait des accords entre les hamonistes, les mélenchonistes, le PCF et puis des tas d'autres gens. Ça n'en prend absolument pas le chemin. Donc c'est vrai que je pense que les électeurs de gauche peuvent franchement être inquiets, là.
Sylvain Crépon ?
Je pense que il est beaucoup trop tôt maintenant, enfin aujourd'hui, pour savoir ce que vont donner les législatives. On est complètement dans le brouillard, et en même temps, comme disait Françoise Fressaud, c'est logique que chaque parti veuille avoir, sinon une majorité, en tout cas un groupe important à l'Assemblée nationale. Alors l'originalité d'Emmanuel Macron, c'est que dans le cas où En Marche n'aurait pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale, je pense qu'il serait compatible malgré tout avec des pans de d'autres partis politique pour mener en tout cas la politique qu'il a envie de mener. Et je pense qu'au niveau économique, au niveau international, avec d'un côté les Républicains, avec d'un côté peut-être les valsistes du PS, il y aurait à mon avis des accords qui pourraient être tout à fait trouvés. Maintenant, il faudrait trouver un fonctionnement à l'Assemblée nationale qui permette effectivement cette collaboration. Mais là, est-ce que les partis vont le permettre ? Ça, c'est une autre histoire.
Parce qu'on a vu, Françoise Fressaud, un certain nombre d'éléments qu'on pensait fondamentaux de la vie politique française tomber. Parmi ces éléments, il y a l'idée que, naturellement, après une élection présidentielle, on donne une majorité. Bon, est-ce que ça, c'est pas encore quelque chose qui va tomber dans cette séquence politique complètement folle qu'on vit depuis 18 mois en France ?
Mon hypothèse, c'est plutôt qu'il y aura une majorité pour Emmanuel Macron, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit absolue. Je ne vois pas tellement les électeurs changer de logique et tout d'un coup se dire « on va faire de la cohabitation, imposer une cohabitation ». Souvenez-vous que le quinquennat, l'inversion du calendrier électoral, il a été fait justement pour éviter ces cohabitations qui ont été vécues comme très émollientes pour le système politique français. Donc je ne pense pas qu'on soit dans cette marge de manœuvre-là. Ce qui va se jouer après, c'est est-ce qu'on laisse une personnalité qui s'est quand même revendiquée libérale dans un pays assez rétif au libéralisme, avoir les mains libres, ou est-ce qu'on lui impose des négociations ou en tout cas des compromis ?
Oui, mais, Dominique Méda, un mot, puis Mahmoud au standard.
Là, les gens vont quand même avoir plus de choix. Bon, là, notre choix était contraint entre deux personnes, mais là, le choix s'ouvre à nouveau. Donc, c'est pour ça qu'on peut craindre quand même une très forte fragmentation.
Mahmoud, bonsoir. Vous êtes
oui,
là ?
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Bonsoir. Bonsoir France Inter,
bonsoir.
Et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. En fait, je suis concerné par la situation dans laquelle on se trouve. J'aurais aimé avoir deux pensées, enfin deux volets de réflexion à vous proposer. C'est d'une part l'histoire. Et quel est ce moment d'histoire qu'on est en train de vivre en France où être communiste ou être extrémiste, ça fait peur à la démocratie. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a Marine Le Pen ou Le Pen qui fait barrage au peuple, on s'affole, comme si on n'était pas en France. Mais bon Dieu, la France, c'est le siècle des Lumières, c'est l'histoire, c'est les Canus. Enfin, je voulais évoquer les Canus parce qu'on est Croix-Roussien et je vous appelle de la Croix-Rousse. Mmh. Un quartier populaire et très 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 fort. Et d'une part, j'aimerais aussi féliciter Francis Collomb, qui a fait un gros travail dans l'ombre au niveau national. Pas de poste, pas de Marocain, pas de fonction visible, mais un gros travail sur la bonne vieille ville de Lyon.
Gérard Collomb, donc.
Oui, Gérard Lapsus. Voilà. Francis Collomb, c'était un autre maire.
Oui, voilà. Dites-nous, alors, donc ça, c'est pour l'aspect historique. Qu'est-ce que vous disiez que vous aviez deux points à soulever. Alors, le deuxième, c'est quoi?
Alors, Macron, Ruiz Macron. Qui est Macron? C'est affolant d'avoir une vision d'un futur président, parce que bon, pour moi, il n'est pas encore président. Hein.
Oui, alors?
Mais avoir une vision de notre président, qui est Macron? On ne le connaît pas. On nous oriente sur le monde du fric, du capitalisme, des banques, mais lui, il va être président de la République française. Qu'est-ce qu'il a dans la tête?
Et vous pensez qu'il est loin, vous disiez que vous étiez en plein quartier populaire à Lyon, qu'il est loin de cet aspect-là de la France et des Français?
Ben oui, parce que la France, c'est quoi? C'est les Portugais, c'est les Italiens, c'est les Espagnols, c'est les Maghrébins, c'est les futurs et les présents. Et lui, sa position par rapport à tout cela, c'est vachement en fait médiatique. Vous verrez dans les images de Macron, il y a cette personne de couleur noire qui fait office de sa secrétaire, qui est toujours présente. C'est au niveau de l'image. Mmh. Et en fait, il fait quoi par rapport à nous? Le vote des étrangers, par exemple, ça c'est socialisme. C'est François Mitterrand. C'était un des piliers et un des pivots de son élection. Et lui, son positionnement par rapport à ça. L'Europe, mais l'Europe, elle est faite d'identités qui sont la mosaïque de la France. Mmh.
Bien reçu, Mahmoud. Qui est Emmanuel Macron? Vaste question et question pertinente. Merci de l'avoir posée. Françoise Fressoz. Il y a des zones d'ombre, hein, on ne sait pas trop sur de nombreux sujets.
Il a quand même essayé de théoriser un peu ce qu'il voulait faire, notamment à propos de la loi Macron, la première loi Macron. Il a une analyse de la société qui est celle des ceux qui sont inclus dans le système et ceux qui sont exclus. C'est un peu ça. Il a développé une analyse qui est consistait à dynamiter les rentes. Donc il voyait la société française comme une société un peu bloquée par notamment la perspective du chômage, la peur de pas être dans le coup, et donc avec des professions protégées et même une organisation du marché du travail où, si vous voulez, on donne tout aux entrants, aux salariés, à ceux qui, et puis ceux qui veulent rentrer, les jeunes ou ceux qui veulent, dont on veut se débarrasser, les vieux, sont un peu perdants. Donc son idée, c'était de casser les rentes et de fluidifier le marché du travail. C'est pour ça que sa réforme du marché du travail, elle ouvre en quelque sorte son quinquennat, parce qu'elle est symbolique. Et tout repose aussi sur la mobilité, c'est-à-dire, plutôt que de raisonner en termes d'égalité pour tous, c'est plutôt l'égalité de l'accès à un emploi ou de l'accès à une formation. Voilà, casser les rentes pour fluidifier la société. Ça, je pense que c'est le béaba, c'est vraiment fondamentalement l'axe de sa réflexion. Après, est-ce qu'il a les moyens de faire cette fluidification? Vous avez vu tous les barrages qu'il y a eu au moment de la loi Macron, notamment chez les notaires, toutes ces professions protégées. Donc il y a des blocages. Et d'ailleurs, il a un peu atténué son discours pendant les campagnes, sans doute, pour pas se mettre trop à dos de professions. Mais en tout cas, le fondement de sa pensée, c'est il faut introduire la mobilité dans une société rigidifiée et paniqué par le chômage.
Un mot, Dominique Méda.
Je suis entièrement d'accord avec l'analyse de Françoise Fressoz et ça me rappelle énormément. Alors c'est un courant de pensée qu'on voit monter depuis longtemps. Hein. C'est les travaux de Cahuc, enfin tous les travaux des gens qui ont travaillé sur le marché du travail. Par exemple, 2004, Cahuc et Kramartz rendent un rapport à Sarkozy, qui était ministre des Finances, qui dit en gros il faut imiter le Danemark parce que flexicurité, etc., etc. Ça a énormément monté. 2012, campagne de Hollande, c'est les réunions à la Rotonde. Et ce qui est passionnant, c'est de voir le groupe d'économistes qui était autour de Ségolène Royal en 2007, le groupe d'économistes qui est autour de Hollande en 2012, et qui a complètement changé. Avant, c'était Piketty. Après, c'est en effet Seth, Cohen, Aguillon, etc., qui sont beaucoup plus sur la politique de l'offre. Et moi, ça me rappelle, mais alors complètement, c'est complètement congruent avec la note de Terra Nova mai 2011, hein, quelle stratégie électorale pour 2012, et qui nous dit il ne faut plus une lecture de la société en termes de classe sociale, mais en termes, c'est ce que vous avez dit, d'outsider, insider. Et donc tout est là. Donc j'ai l'impression que on est là en train de voir en effet presque une captation idéologique par un courant de pensée qui se diffuse et que voilà qu'on voit très bien.
Est-ce qu'il y a eu un vote de classe justement quand on regarde la sociologie des différents électorats? Comment on peut répondre, Sylvain Crépon, à cette question?
Alors, je vais d'une prudence de Sioux, je vais dire oui et non.
C'est bien. En même temps, comme dirait l'autre.
Non, je dirais oui, il y a eu un vote de classe, mais pas forcément là où on l'attendait. C'est ça qui est assez étonnant. Si je prends les électorats de gauche, et là je pense qu'il y a quand même un aggiornamento à faire de la part de la gauche, c'est-à-dire qu'il y a un déficit de représentativité des catégories populaires au sein de la gauche qui nécessite, à mon avis, aujourd'hui, une très forte remise en question. Cette absence de représentativité, elle, bon, c'est multifactoriel, mais à mon avis, il y en a un qui joue, c'est que dans le fonctionnement même, dans la structure même des partis de gauche, il n'y a pas véritablement, dans le recrutement de ces partis et dans leur promotion interne, la mise en place de représentativité de gens issus des catégories populaires. Et c'est vrai pour le Parti Socialiste, notamment, qui se coupe de relais auprès de ces catégories populaires. Et c'est un mode de sélection et de promotion interne qui est de plus en plus élitiste. Et ça, c'est vrai que ça pose un grand défi. Mais évidemment, c'est tellement structurel que pour le réformer, ça devient un véritable problème. Et donc, ça se coupe des problématiques.
Est-ce qu'il y a des partis qui aujourd'hui font ce travail qu'a pu faire le Parti communiste aussi à la très grande époque?
Mais c'est ça qui est dramatique. C'est que si un parti qui fait ça aujourd'hui, c'est le Front National, bien entendu. Alors, il le fait peut-être contraint et forcé parce que, bon, bah, on
il faut
dit
des
toujours,
cadres.
Bah,
il,
voilà,
faut, des
il
gens.
Faut des cadres, il faut des gens compétents. Quand on les a pas, eh ben, on recrute un peu, on investit ce qu'on a. Mais en tout cas, lorsque vous interrogez des électeurs du Front National sur le personnel politique du Front National, ils disent une chose, c'est au moins le personnel politique du Front National, les candidats, ils nous ressemblent. Ils parlent comme nous et ils sont capables de comprendre ce qu'on vit au quotidien, nos problématiques. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de partis dits de gouvernement dans leur fonctionnement et dans leur discours qui soient capables d'en dire autant.
Françoise Fressaud, ça c'est un des aspects de la crise profonde des partis. Hein. On va avoir le temps d'y revenir, mais un mot.
Oui, c'est vrai. Et moi, par exemple, sur la représentation de l'Assemblée nationale sous ce dernier quinquennat, on a vu énormément, effectivement, les nouveaux députés étaient souvent pris parmi le personnel des collectivités locales. Donc c'était des gens qui n'avaient pas du tout de contact avec l'électorat populaire. Et je pense que ça a accru très fortement le malaise et l'impression qu'au fond, si vous voulez, ils ne percevaient pas. Par exemple, un épisode très important, c'est la politique fiscale, où tout d'un coup, ils ont pratiqué une politique fiscale très dure, qui a commencé à toucher l'électorat populaire. Personne n'a pu alerter à temps François Hollande de dire, attention, tu fais une énorme gaffe là-dessus. Et je pense que c'est ce qui a joué très fortement au début du quinquennat, cette fraude fiscale vécue par des contribuables qui ont été obligés parfois d'emprunter pour aller payer leurs impôts.
Ce téléphone sonne spécial continue dans quelques instants. Appelez-nous au 01 45 24 47000. Si vous aimez le courrier électronique, franceinter.fr, les réseaux sociaux, Twitter, avec le mot-clé Telson, vous êtes très nombreux au standard. Rendez-vous à 19h20 donc pour la suite de notre conversation.
France Inter, le 18-20.
On poursuit cette édition spéciale du 18-20 au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron. On a pu le voir depuis 18 heures. Il va falloir des jours et pour les chercheurs, sans doute de longs mois pour déplier les enseignements de cette présidentielle. Où que l'on se tourne, du côté du FN, du côté des partis, du côté de l'abstention, on tombe sur des situations inédites. Alors on va en parler évidemment avec vous, amis auditeurs, mais dites-nous aussi si vous êtes heureux, soulagé, déçu, indifférent ou en colère après l'élection d'Emmanuel Macron. Vous attend jusqu'au standard, jusqu'à 20h au standard.
Le téléphone sonne.
Et je salue Zachary. Zachary est là?
Oui, bonsoir.
C'est Zachary, Zachary? 16
oui.
ans? Ah
c'est
bah
ça.
Oui, Zachary de Rennes, bienvenue.
Bonsoir.
Alors la dernière fois que tu nous as appelé, tu regrettais de ne pas avoir le droit de vote.
Oui.
Comment as-tu vécu ce deuxième tour?
Bah, j'étais déjà soulagé que Emmanuel Macron soit élu. Et donc hier, j'étais dans Rennes, donc pas par rapport aux élections, mais bon, je suis quand même passé. Bah, j'ai pu voir qu'il y avait déjà pas grand monde dans le centre-ville et que j'étais étonné de voir que la place de la mairie était vide, malgré des CRS qui attendaient là tout de même, ou peut-être qui s'attendaient également à ce qu'il se passe quelque chose, mais non, donc il n'y avait rien, pas de manifestation spontanée. Contrairement au souvenir que j'avais de 2012 avec des électeurs de gauche. Très satisfait de la victoire de François Hollande et ici pas de vraie victoire. Et donc est-ce que ça montre pas que Emmanuel Macron, qui a jamais eu de mandat local, qui a par contre été banquier chez Rothschild, n'a pas d'accroche territoriale profonde en France?
Comme d'habitude, Zacharie, très bonne question. Reste en ligne, laisse-moi te présenter les invités de ce Téléphone Sonne. Nous sommes toujours avec Sylvain Crépon, sociologue, maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Tours, membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès, spécialiste de l'extrême droite. Le directeur général de la Fondation Jean Jaurès est là également, Gilles Finkelstein. Bonsoir.
Bonsoir.
Françoise Fressoz, éditorialiste politique au quotidien Le Monde, est également avec nous. Dominique Méda, sociologue spécialiste du monde du travail, conseillère de Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle. Et Thomas Legrand, éditorialiste politique à France Inter, qui a trouvé donc son remplaçant en la personne de Zacharie.
Bah oui,
il est incroyable.
Impressionné.
Hein,
oui.
À 11 ans, Zacharie, donc, t'étais déjà dans les rues pour l'élection de François Hollande.
Bah oui, bah j'étais allé avec mes parents, oui, on était sortis après 20h. Oui, donc c'est vraiment pour François Hollande.
Alors, la question que tu posais, il y avait personne dans les rues de Rennes, cela ne montre-t-il pas qu'Emmanuel Macron n'a pas d'attache territoriale? Qui veut répondre à cette question, Thomas Legrand?
C'est pas tellement question d'attache territoriale, c'est il ne représente pas une grande force politique profondément ancrée depuis des années dans le paysage politique. Généralement, quand une élection est gagnée par un président de la République, il représente quelque chose, il représente la droite, il représente toute une histoire, toute une tradition qui, après des années d'opposition et de frustration, arrive. Et puis il y a une sorte de libération de tous ceux qui se sont battus pour que ce président devienne président. Mais là, c'est un mouvement qui est créé depuis un an. Et les gens ont voté beaucoup, d'ailleurs, on l'a dit, contre Marine Le Pen. Il y a une inquiétude. En Marche ne représente pas quelque chose d'assez encore enraciné. C'est pas tellement territorial, mais plutôt idéologiquement, pour que ça soit vécu comme une grande libération. Ça fait un an qu'ils existent et paf, ils sont déjà au pouvoir.
Gilles Finkelstein.
Oui, juste en un mot pour compléter ce que vient de dire Thomas Legrand. Je crois que c'est pas propre à ce qui s'est passé à Rennes. Je rassure Zacharie. Il n'y a pas eu.
Il n'y avait personne nulle part.
Il n'y avait pas personne nulle part, parce qu'il y avait à la pyramide du Louvre, il y avait du monde et il y avait de l'enthousiasme. Mais c'est vrai, et c'est vrai pour la raison qu'évoquait Thomas, c'est-à-dire que la politique, fondamentalement, c'est une culture, c'est une histoire, c'est une mémoire, et que ce sont des éléments que, par le parcours qui a été le sien, Emmanuel Macron n'a pas pu mobiliser. Il y a une enquête qui a été réalisée hier sur le jour du vote, et une des questions qui a été posée était précisément celle-là. Quels sont les sentiments que vous éprouvez à l'issue de cette élection? De l'enthousiasme, est-ce que vous êtes confiant, indifférent, inquiet, révolté? 13% de Français qui disent « je suis enthousiaste », 26% qui disent « je suis confiant », ça fait 39%. C'est un petit peu plus que François Hollande en 2012.
Et les inquiets et les indifférents?
Les inquiets et les révoltés, ça fait 46%, oui. Donc ça fait un gros paquet.
Dominique Méda.
Oui, je crois aussi que la situation était très grave. Enfin, il y avait une gravité dans tout ça. On était passé à côté de quelque chose de catastrophique, donc je pense qu'il y avait du soulagement. Mais moi, je comprends assez que l'atmosphère n'était pas à la fête, en effet, parce que je pense qu'un grand nombre de personnes se disaient que la situation était grave, qu'on n'allait pas nécessairement s'amuser. Hein. Je reviens sur ce qu'Emmanuel Macron a dit quand, j'ai pas de finances magiques. Donc, il n'y a pas eu les grandes promesses qu'il y a eu avant, qu'il y avait eu avec Hollande, par exemple. On va se battre contre la finance, ça va être génial, tout va changer. Non, là, il nous a fait aucune promesse dont il disait qu'il n'aurait pas pu les tenir. Donc, d'une certaine manière, ça se comprend. Et je ne crois pas qu'il faille l'interpréter comme un désaveu ou un découragement.
Tu as ta réponse, Zacharie?
Oui, ça va.
Bah écoute, désolé de t'avoir dérangé. Viens nous voir à France Inter, Zacharie, quand tu passes à Paris.
Avec plaisir.
On a ton numéro de téléphone.
D'accord.
Allez, bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Et réinterviens dans le téléphone sonne quand tu veux. Bonsoir François.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir, merci de prendre ma question. Oui, voilà, moi j'ai une analyse qui est plutôt personnelle, elle vaut ce qu'elle vaut. Je pense que Monsieur Macron a bénéficié du détournement des électeurs de Monsieur Fillon, le détournement de leur candidat, parce que il a été fortement impacté par les scandales qui ont été dévoilés par le Canard Enchaîné. Sans ça, il n'aurait pas été au deuxième tour, ça c'est mon avis. Deuxièmement, une fois qu'il est passé au deuxième tour, il a bénéficié de la dynamique, tout sauf le Front National. Et je dis ça sans aucune amertume, moi j'ai voté blanc après avoir voté pour M. Mélenchon. Donc pour l'avenir immédiat, après les élections législatives, ce que je crains c'est que la droite, qui ne devait pas perdre cette élection et qui était tellement frustré de l'avoir perdue, on peut le comprendre, se retourne massivement vers les députés que vont présenter les Républicains et vote comme un seul homme pour gagner cette fois-ci cette élection et ne pas être frustré une deuxième fois. Ça nous donnerait une cohabitation qui invaliderait un petit peu Monsieur Macron. Je pense que ça le rendrait partiellement impuissant. Et sinon, l'autre alternative, c'est peut-être une espèce de foire d'empoigne, je le dis sans vouloir être méprisant, hein, mais une coalition très hétéroclite pour essayer de gouverner. Et on reviendrait à ce que le général de Gaulle a toujours craint, c'est-à-dire la République des partis. Voilà, et enfin, si vous me permettez, Monsieur de Morand, juste une petite remarque à propos de Monsieur Mélenchon. Je pense que, généralement, commentateurs, médias sont un petit peu injustes avec lui. Lui et Monsieur Hamon, c'était les deux candidats qui se préoccupaient de l'humain, hein, qui devait mettre la finance à son service, et non pas être au service de la finance. Et c'est terriblement frustrant, au-delà du fait qu'il ne soit pas passé comme on l'aurait souhaité, de voir que les gens qui se préoccupent de l'humain, du bien-être des gens, sont toujours traités au mieux avec un peu d'ironie ou d'indifférence, sinon avec condescendance, comme si c'était irréaliste, comme si c'était irréaliste. Il n'y a pas de choix, on revient au non-choix de Madame Thatcher disait, il n'y a pas d'alternative. Et ça fait un petit peu mal parce que leur politique, on ne les a pas essayés. Les autres, oui, et je pense que leur politique pouvait réussir. Voilà,
merci.
Pardonnez-moi pour cette longue intervention.
Non, le téléphone sonne, c'est vous qui le faites. Merci beaucoup, François. Alors, la question est roborative, hein, cela dit, il y a énormément de choses. Thomas Legrand.
Oui, il y a énormément de choses.
Sur
les législatives.
Oui.
Parce que, alors, est-ce qu'Emmanuel Macron, et ça, en fait, ce qui est intéressant dans cette élection, c'est que, quand même, Emmanuel Macron, malgré toutes les bonnes raisons que vous avez évoquées et vous avez l'impression qu'il avait donc été élu par défaut, il a quand même gagné. C'est-à-dire qu'au premier tour, il était en tête. Les affaires de Monsieur Fillon auraient pu mettre en tête Monsieur Mélenchon ou Monsieur Hamon. Bon, ça a été Monsieur Macron. Et après, Monsieur Macron a réussi à capter des voix sur son nom. Bon, il a gagné. Est-ce que c'est un choix politique? Eh bien, ça, on va le savoir aux législatives. Et moi, je trouve que c'est finalement la démocratie française devient un peu mature parce que c'est quand même plus intéressant, je trouve, quand l'élection législative est l'élection matrice de la politique que quand c'est l'élection pour un homme, quand c'est l'élection présidentielle. Là, on voit que visiblement, il a l'air de bien savoir incarner, rentrer dans le costume. Il a l'air de bien savoir présider.
Le Louvre nous l'a indiqué.
Oui. Est-ce qu'il peut gouverner? On ne le saura qu'après les législatives et finalement ce sera un vrai choix politique et c'est très bien ainsi je trouve.
Gilles Finkelstein.
Alors François dit le premier tour il y a eu un détournement, c'est le scandale, les affaires qui ont été à l'origine de l'échec de François Fillon. Il ne faut jamais oublier que après les primaires, après la progression très forte, il est monté à 30% dans les intentions de vote. Il a baissé et il a baissé sur son programme, notamment sur le programme concernant la protection sociale et il a baissé avant les affaires. Il est passé de 30 à 23% avant les affaires. Donc François Fillon. Donc les affaires ont accentué ce phénomène et
la Sécu avait déjà été responsable de la glissade.
Deuxièmement, François dit, le deuxième tour, c'est la dynamique tout sauf Le Pen. C'est quand même, ça n'a pas été exactement la même chose qu'en 2002. Et puisqu'il a voté pour Jean-Luc Mélenchon, une des différences majeures est que Jean-Luc Mélenchon, en 2002, avait appelé à voter pour Jacques Chirac et que cette fois-ci, il ne l'a pas fait. Troisième remarque, il dit, est-ce qu'on peut avoir, à l'occasion des élections législatives, une cohabitation? Évidemment, c'est possible. Il ne faut pas négliger le fait que la crise aussi est à droite aujourd'hui et que la droite est d'une certaine manière dans une situation symétrique de celle du Parti Socialiste et la question qui va lui être posée et qui va lui être posée très vite est de savoir si elle considère qu'elle fait partie de la majorité présidentielle ou de l'opposition et sur cette question-là, la droite peut se fracturer. Enfin, après les législatives, François dit, on peut avoir comme sous la 4e République, un gouvernement de coalition. De la part d'un électeur de gauche, la coalition, c'est pas nécessairement quelque chose de mal. C'est ce que connaissent la plupart des régimes parlementaires que nous avons à côté de nous.
Françoise Fressoze.
Oui, moi, il m'a semblé que dans ce qui s'est passé à gauche et à droite, il y a quand même un phénomène important de décomposition et de difficulté à vivre ensemble. Il m'a semblé qu'à droite, la principale fracture, elle était entre Alain Juppé d'un côté et de l'autre, Nicolas Sarkozy et François Fillon, sur quelle était la conception de la droite dans la période qu'on vit, c'est-à-dire marquée par le terrorisme et marquée aussi par des difficultés économiques. On a vu Alain Juppé, d'emblée, pendant la primaire, prendre le positionnement d'Emmanuel Macron sur le dépassement des clivages pour essayer de construire une majorité avec quelques points de réalisation. Et puis on a vu une droite beaucoup plus identitaire tournée vers la reconquête des électeurs du Front National. Et je pense que cette fracture-là explique aussi le fait que le vainqueur de la primaire de la droite n'ait pas pu rassembler ensuite. Et je pense que ce qui a fait la force d'Emmanuel Macron, ce n'est pas un concours de circonstances, mais c'est d'avoir prédit d'emblée, avant que la primaire se réalise, que les deux finalistes de la primaire, et à gauche et à droite, ne pourraient pas être en capacité de rassembler
enfin,
le pays.
Pour le reste, il a eu beaucoup de baraka quand même.
À cause des clivages trop importants à l'intérieur de chaque camp. Et donc, je pense que Fillon, il y avait quand même une fragilité qui n'était pas seulement due au Penelope Gate.
Sylvain Crépon, non, si vous souhaitez intervenir.
Juste un petit mot sur les sondages, de dire que tout le monde prédisait que à la sortie de la primaire, François Fillon allait nécessairement gagner l'élection. Il faut être très prudent. Je rappelle juste un petit exemple de sondage. En 2014, on prédisait à Marine Le Pen au premier tour pour 2017 32% et au second tour 52% face à François Hollande. Donc je pense qu'il faut rester très prudent. Cette élection n'était pas nécessairement pliée pour François Fillon, comme l'a rappelé Gilles Finkelstein tout à l'heure. Et donc... attention, choix. Juste un tout petit peu prudent avec les sondages.
Dominique Méda, il y avait aussi dans la question de Françoise l'idée que Benoît Hamon, comme Jean-Luc Mélenchon, avec des programmes orientés vers l'humain, comme le disait notre auditeur, ont été traités avec ironie et condescendance dans les médias. Je n'ai pas nécessairement cette impression. L'avez-vous partagé, Dominique Méda, ou
je
pas
crois, je crois que François parlait surtout de Mélenchon et de Jean-Luc Mélenchon depuis qu'en effet il avait appelé au Nini et qui ne s'était pas prononcé donc pour
non je pense non, qu'il faisait référence non, deux, mais justement au programme hein.
je trouve que c'est un petit peu injuste parce que par exemple sur le revenu universel on l'a beaucoup traité et c'était une proposition de Benoît Hamon et on l'a beaucoup
sur
traité
sur la fin du travail
sérieusement avec ce que et c'est vrai que Benoît Hamon apportait une réflexion lui au moins sur l'avenir, c'était important. Emmanuel Macron aussi un peu d'une certaine façon et je trouve que ça a été traité très largement. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Il y avait des divisions à gauche. On s'est pas moqué
sur l'économie de la mer, chez Jean-Luc Mélenchon.
La planification écologique, c'était quelque chose.
C'est intéressant. Dominique.
Là où j'ai un léger désaccord avec Françoise Fressoze, c'est quand vous dites que les clivages étaient trop importants. Et bon, après tout, on aurait quand même tout à fait pu imaginer que Hamon et Mélenchon passent un. Non, ok, ça s'est pas fait. Et c'est vrai que ça aurait été difficile.
Il y a l'Europe quand même.
Oui,
la construction européenne, c'est...
Et puis, il y a l'histoire de Jean-Luc Picatré. Mélenchon qui est parti du PS en disant « j'aurai la peau du PS oui. ». Donc, c'est je ne vois pas vrai. Comment c'est il aurait pu aller s'allier à Benoît Hamon et se mettre derrière lui.
Certains disent qu'il y a eu un petit moment, quelques jours après le choix de Benoît Hamon pour la primaire, un petit moment où, en effet, quelque chose aurait pu se faire. Alors, peut-être qu'on réécrit l'histoire. Peut-être que, finalement, Mélenchon n'y a jamais pensé.
Catherine, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci de prendre mon appel. Alors moi, je vous appelle parce que je suis assez atterrée de voir ce contre M. Macron. Nous tenons un centre de formation professionnelle dans une ville qui est malheureusement très sujet à Sarcelles. Et nous voyons comment ça se passe. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on arrête tout ça, on donne sa chance à M. Macron, on l'aide, on ne peut plus parler de droite ni de gauche, on parle de tout un tas de gens de bonne volonté qui vont essayer d'aider M. Emmanuel Macron. Enfin quelqu'un qui n'est pas des apparatchiks et qui était jusque-là, pour remettre la France d'aplomb. Et je peux témoin qu'il se passe des choses que les gens, les apparatchiks ne comprennent pas, ils ne comprennent plus. Alors que nous, on est sur le terrain et on voit comment ça se passe. Alors que ce soit de droite ou de gauche, que ce soit monsieur Barouin disant 5 minutes après l'élection de monsieur Macron, nous allons faire barrage et je serai le premier ministre de la cohabitation, c'est scandaleux. Tant qu'à monsieur Mélenchon, il a qu'à venir nous voir, on va lui expliquer nous comment ça se passe. C'est scandaleux. Voilà.
Merci Catherine, on l'a bien compris, laissez-lui une chance. Vous n'êtes pas la seule Catherine hein, à le dire ce soir au standard de France Inter. Beaucoup d'auditeurs disent, bon, il est élu depuis hier soir, les critiques pleuvent déjà, l'hypothèse de la cohabitation est là, laissez-lui une chance Thomas Legrand.
Ça c'est une réaction tout à fait normale après la soirée qu'on a vécue hier soir sur les plateaux de télévision où on a vu déjà, c'est vrai, les vieux partis s'écharper et considérer que finalement M. Macron n'était pas tellement légitime, chiffre à l'appui. Et puis c'est vrai que beaucoup de gens ont voté pour M. Macron contre Marine Le Pen. Le vote blanc a été très important. Mais le vote blanc, encore une fois, ça ne dit rien. Quand vous votez blanc, vous ne dites rien. Vous dites que vous n'êtes pas content, mais vous pouvez ne pas être content parce que vous trouvez qu'il n'y a pas assez de gens qui proposent qu'on jette les immigrés à la mer, par exemple. Il y a des gens qui votent blanc pour ça. Et ça, ils votent la même chose que... Donc, on ne dit rien quand on vote blanc. Je voudrais rappeler simplement ces chiffres. Il a été élu, Emmanuel Macron, avec 46% des inscrits. C'est énorme. C'est beaucoup plus que... C'est plus que François Hollande et Nicolas Sarkozy. 20 millions d'électeurs. Le Brexit, c'est 36% des inscrits. Et Trump, c'est 25% des inscrits. Il a fait une très belle élection. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont le sentiment d'avoir voté par défaut, mais il a fait une très belle élection. Et ce sentiment qu'il faut lui laisser sa chance, il y a des manifestations déjà dans les rues, peut monter et peut être le cœur de sa dynamique de sa dynamique pour les législatives.
Gilles Finkelstein.
Il ne faut pas oublier que l'élection présidentielle reste l'élection structurante dans notre pays. Et donc faire à partir de 20h05 comme si rien ne s'était passé, comme si cette année de campagne, parce qu'on a eu quasiment une année complète de campagne avec des primaires dans chaque camp, avec un processus dans lequel l'opinion s'est formée à qualifier deux finalistes et à attribuer une victoire extrêmement nette. C'est au-delà de tout ce que on avait en tête le soir du premier tour et même de ce qu'on avait en tête pendant la première. Donc, ça, faire comme si rien ne s'était passé, je pense que c'est une erreur psychologique que commettraient les partis traditionnels. Et évidemment, il y a cette tentation-là. Et puis, juste un tout petit mot sur le fond, parce que c'est pas anecdotique. Catherine dit, elle travaille dans la formation professionnelle. C'est un des sujets sur lesquels Emmanuel Macron a proposé des réformes en profondeur et qui, dans mon esprit en tout cas, incarne sa partie gauche. C'est-à-dire ce que moi j'appelle l'égalité des chances, que lui appelle la mobilité,
les droits réels, les droits formels.
Donc ça, c'est appartient à un vieux courant, ce qu'il propose sur l'école, ce qu'il propose sur la formation. Et donc ça, c'est intéressant que Catherine travaille dans ce secteur-là.
Françoise Fressoz.
Oui, il faut pas oublier quand même que tout ce qui a marqué cette élection, tout le processus électoral depuis le début de la primaire, c'était dégager ceux qui ont failli. Donc d'une certaine façon, je comprends très bien ce que dit l'auditrice, c'est-à-dire il faut lui laisser sa chance. Il incarne la nouveauté. Il n'a pas été élu par hasard. Il a été celui qui a réussi à structurer ce dégagisme qu'avait théorisé Jean-Luc Mélenchon. Et donc, il peut créer, il peut y avoir derrière lui un courant assez puissant, disant, mais écoutez, ça y est, il est en place, il a été élu, laissez-le faire, au moins qu'on teste quelque chose de nouveau.
Dominique Méda, Sylvain Crépon, vous voulez dire un mot, Dominique Méda?
C'est la question un peu de l'imputation, c'est-à-dire on dit, voilà, il a été élu, donc il faut lui laisser sa chance, bien sûr, mais dans l'ensemble de ce qu'il a proposé, qu'est-ce que les gens désirent finalement? Il a proposé plein de choses, sur la formation professionnelle, sur le chômage, il a proposé surtout de surmonter le clivage gauche-droite, de rénover la vie politique, donc voilà, je pense que peut-être il faut interpréter les manifestations actuelles comme un signal envoyé disant attention, il y a quelques points, il y a des chiffons rouges ou des lignes à ne pas franchir. Et nous, CGT ou autres, on n'a pas envie que vous franchissiez celle-là.
Oui, mais enfin, au lendemain d'une élection, et ça sera plus vrai après les législatives, s'il remporte une majorité, ça sera compliqué, je trouve, après, avec une légitimité toute fraîche, législative plus présidentielle, de continuer à dire oui, enfin, il n'a pas été élu pour modifier le code du travail. S'il y a quelqu'un qui l'a dit avant de se faire élire, contrairement à ce qu'a fait François Hollande, c'est bien lui. Et ça serait quand même, si on peut pas, dans le mois qui suit, appliquer la mesure cardinale pour laquelle il a été élu, puis confirmé par la législative, sous réserve que ça se passe, là, ça devient compliqué. Ça veut dire qu'on peut plus rien faire, même de gauche ou de droite.
Olivier, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Nantes, bienvenue.
Merci, bonsoir France Inter, bonsoir à vous tous.
Bonsoir.
Déjà, je me félicite de la victoire d'Emmanuel Macron, qui a été plutôt bien élu. Maintenant, quel est le fondement de cette élection? Est-ce que au niveau du deuxième tour qui nous attend, enfin troisième tour et quatrième tour qui nous attend au niveau des législatives, est-ce qu'il aura la majorité? Et ça, on est encore un moins sûr. Est-ce que c'est pas l'occasion pour la France de pouvoir faire une gouvernance avec un triple quadripartisme, voire plus, au niveau de l'Assemblée, au niveau du Parlement, ce qui pourra nous amener un petit peu à ressembler à nos collègues européens. Mmh. Est-ce pas une chance pour nous d'avoir ça, avec un président qui semble plutôt bienveillant et intelligent par rapport à ça?
Et de travailler donc, j'imagine, par coalition, c'est bien cela, Olivier?
Tout à fait, tout à fait.
Alors, la parole, merci pour la question, Françoise Fressoz.
Bon, moi je trouve que les institutions sont suffisamment souples pour permettre des cas de figure dans le cadre d'une majorité assez nette. Donc, au bout du compte, j'ai envie de vous dire, c'est l'électeur qui va trancher. Est-ce qu'il a envie de donner les pouvoirs importants à Emmanuel Macron et lui laisser une sorte de présidence qu'on a connue jusqu'à présent, c'est-à-dire le président décide et le Parlement suit, ou est-ce qu'on introduit davantage de souplesse? C'est aussi, ce qu'il faut évaluer aussi, c'est la conjoncture dans laquelle on est, c'est-à-dire un climat où il y a quand même des attentats, des défis économiques assez importants. Donc ça, c'est vraiment l'électeur qui va trancher. Mais je pense que la Ve République a ceci de commode, c'est qu'elle est assez flexible et qu'elle peut permettre ce genre de pratique.
Et sur la question du quadripartisme en tant que tel, on est passé du bipartisme au tripartisme et nous demandait Olivier peut-être au quadripartisme. Qu'en pensez-vous? Et ensuite, sur la culture de la coalition, qui n'est pas exactement française. Sylvain Crépon?
On peut pas encore prédire ce qui va se passer, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que de ce point de vue-là, Emmanuel Macron est sans doute le candidat qui se prête le plus, de par son positionnement, peut-être à un gouvernement de coalition, avec peut-être une possibilité de gouverner avec peut-être les uns des Républicains, les autres du Parti Socialiste, évidemment son mouvement En Marche, et que s'il n'obtient pas de majorité absolue à l'Assemblée Nationale, c'est peut-être ce qui va se passer, mais c'est peut-être justement le candidat le plus compatible avec ce cas de figure, et ça pourrait être intéressant.
Gilles Finkelstein.
Alors, d'abord sur... Comment on décrit la scène politique française? Il y a 30 ans, il y avait un quadripartisme. Mais c'était ce que Maurice Duverger appelait le quadri-bipolaire.
Ah oui, le quadri-bipolaire, oui. UDF, grand classique. Mais allez-y.
UDF-RPR, PS-PC. Puis, on a eu une espèce de tripolarisation avec la montée du Front National. Avec cette élection, on a une espèce de quadri-quadripolaire. Et c'est ça la grande difficulté. On a quatre pôles et il est très difficile...
Avec pas d'alliance évidente possible.
Et il est très difficile de les apparier entre eux. Deuxièmement, sur les scénarios, si on regarde, si on essaie de comparer, il y a quatre, de manière très rapide, quatre scénarios possibles. Il y a François Hollande 2012, une majorité absolue. Il y a Michel Rocard 88, une majorité relative. C'est très difficile parce que, entre-temps, il y a la réforme de la Constitution de Nicolas Sarkozy. On ne peut plus utiliser le 49-3 qu'une fois par session. Vous avez Mitterrand 86, la cohabitation. Et puis vous avez, si on regarde à l'étranger, un Merkel de la dernière élection, c'est-à-dire un gouvernement de coalition, ce dont nous n'avons pas l'habitude, ce que nos voisins de plus en plus pratiquent.
Encore un mot sur la culture de la coalition. On retourne. Il y a une question de Luc de Haute-Savoie. Pour vous, l'élection d'Emmanuel Macron va-t-elle forcément donner une élection FN en 2022? On l'a beaucoup entendu ça hein, dans l'entre-deux-tours. Françoise Fressoz. Alors on a déjà du mal à se projeter sur les législatives. On va éviter de le faire alors qu'on a un président depuis hier pour la présidentielle de 2022. Mais c'est beaucoup venu dans le débat public. C'est la dernière chance avant. C'est la dernière cartouche avant que le système n'explose et que le Front National n'arrive au pouvoir. Françoise.
Alors, Marine Le Pen, je trouve que son atout dans cette élection, c'est qu'elle incarnait l'opposant universel, c'est-à-dire celle qui incarnait une alternative extrêmement franche au système. Ce qui m'a frappé dans les dernières semaines, la dernière semaine de l'élection, c'est qu'elle a perdu des points à la fois sur la tonalité de son débat, qui était quand même très agressif, mais plus au fond sur la faisabilité de cette alternative. Autrement dit, toute la fragilité sur l'euro m'est apparue comme quelque chose de très important. Depuis 2005, même depuis même le référendum sur Maastricht, il y a une sorte de fantasme de dire si on sort de l'euro, on va retrouver la France d'avant, la France qui était les 30 glorieuses où tout le monde allait bien. Et là, on a bien vu qu'elle était face à une impasse, parce qu'une majorité de Français reste attachée à l'euro et qu'elle n'est pas parvenue à crédibiliser cette proposition-là. Donc, il me semble que l'élection présidentielle pour ça était très importante. C'est qu'on a vu quand même une fragilité dans l'alternative proposée, parce qu'on a été jusqu'au bout du débat, et que si elle veut être la chance d'après, il faudra qu'elle retravaille énormément son discours, son positionnement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on sent au Front National, hein. Il y a déjà un débat sur qu'est-ce qu'il faut dire sur l'euro.
Dominique Méda, Sylvain Crépon.
Alors, sans du tout jouer Madame Irma et tout ça, c'est vrai que moi je suis un peu inquiète parce que je trouve que le mal est très profond. Et on a quand même un mal-être social, une souffrance sociale absolument énorme. Des gens qui considèrent qu'ils sont dans une dynamique de déclassement, des lieux qui sont détruits du point de vue de la cohésion sociale. Et donc, je pense que pour faire face à cela, il va falloir un traitement de cheval. Et voilà, je me dis, est-ce que ce que nous propose Emmanuel Macron est suffisamment fort pour constituer ce traitement de cheval et donc, pour d'une certaine manière, éradiquer cette misère alors, moi, il me semble qu'il aurait fallu qu'on ait une véritable gauche qui revienne s'installer sur le terrain et qui renoue avec les classes populaires. Pour moi, c'était ça vraiment la solution. Bon, là, on n'est pas dans cette perspective-là. Est-ce que, en effet, Emmanuel Macron a les outils pour régler la question sociale qui se pose aujourd'hui ?
Sylvain Crépon.
Juste, si on étudie l'électorat du Front National, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a une grosse partie de l'électorat du Front National qui a peur d'une chose, c'est le déclassement. Donc il y a quand même une problématique socio-économique qui est fondamentale et qui est très présente. C'est pas forcément les plus précaires, eux ils sont sortis du vote, mais c'est davantage la toute petite classe moyenne qui a pu acquérir un petit capital et qui a peur de le perdre. Toutes les analyses de Nona Meyer par exemple l'ont très bien montré. Maintenant on a quand même des contre-exemples en Europe qui montrent qu'il y a des pays qui économiquement vont plutôt bien, ont plutôt bien réussi face au chômage et où on voit un vote national populiste extrêmement important. Ce qui montre que finalement la problématique économique, socio-économique n'est pas suffisante pour expliquer l'augmentation de l'extrême droite ou en tout cas des discours nationaux populistes. Donc il y a peut-être d'autres problématiques et quelque chose qui est assez inquiétant qui se développe en ce moment en Europe et ailleurs en Occident, c'est que finalement on a le sentiment qu'il y a une problématique identitaire qui se substitue à la problématique socio-économique, en tout cas dans la résorption des maux de la société. Et à mon avis, c'est un des principaux défis auxquels sont confrontés aujourd'hui les nations démocratiques.
Je vous donne la parole, Gilles, puis Thomas, sur cette question donc concernant le Front National. J'en ajoute une autre qui est extrêmement présente au Standard. Pierre de Paris, par exemple, nous demande si Marine Le Pen n'a pas volontairement cherché l'échec pour ne pas être élue, comme son père. Alors, on ne sonde pas les âmes, les reins, les cœurs et tout le tintouin, mais est-ce qu'il n'y a pas dans le programme sur l'euro, enfin la création d'un objet qui fait que ça n'est pas possible. Et ça, il va falloir le régler pour que ça le soit. Thomas Legrand, Gilles Finkelstein.
Le Front National tel qu'il est construit par Marine Le Pen, avec ce que j'appelle le Front National à l'huile du Sud et au beurre du Nord, le social et l'identitaire, est une sorte d'alliage pour passer de 15 à 20, de 20 à de 20 à 30, mais qui devient très compliqué pour acquérir le pouvoir, pour avoir le pouvoir, parce que les incohérences qui permettent de protester et qui permettent de le faire progresser quand ils approchent du soleil, du pouvoir, comme Icare, ça fond. C'est-à-dire que les incohérences apparaissent au grand jour. Et elles sont apparues pendant ce débat où, finalement, on a vu la cire de Le Pen-Icare fondre et elle est retombée. Donc moi, j'ai l'impression que, en fait, c'est pour ça qu'ils veulent maintenant refonder le Front National pour que ça soit beaucoup plus cohérent et pour casser ce qu'on appelle, avec ce poncif du commentaire politique s'agissant du Front National, le plafond de verre.
Gilles,
je m'étais juré de jamais employer ce mot, mais bon,
voilà, c'est raté. Fait. Encore une promesse non tenue. Gilles Finkelstein.
Je me demande si on n'a pas surestimé le Front National et Marine Le Pen.
Marine Le Pen.
Dans le débat public depuis des mois et des mois, et moi le premier. Il y a un électorat qui s'est enraciné, qui s'est développé, mais quand on regarde cette campagne, et bien avant le débat, Marine Le Pen a fait une très mauvaise campagne. Elle a fait une mauvaise campagne d'un point de vue stratégique. Elle a d'ailleurs perdu beaucoup de terrain pendant la campagne de premier tour pour finir sur un score qui était très en deçà des objectifs qu'elle s'était fixés. Et elle a fait une campagne du second tour. La totalité de la campagne du second tour a été très mauvaise. Elle n'a parlé qu'aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, alors que ses réserves, Sylvain Crépon le disait tout à l'heure, étaient d'abord du côté de François Fillon. Et elle s'est affaissée pendant le débat.
Enfin, le résultat est pas mal, hein, excusez-moi, Gilles.
Mais non, évidemment, le résultat est pas mal si on regarde par rapport à ce que faisait le Front National auparavant.
Un million de voix, quand même. Million de voix, c'est tout de même spectaculaire.
Mais évidemment que c'est spectaculaire. Mais le Front National, aujourd'hui, est très loin du pouvoir. Je crois que ça, c'est un enseignement. Les Français ne veulent pas du Front National et ils ne veulent pas de Marine Le Pen. Ça, c'est, je pense, un des éléments structurants pour les années prochaines. Ça ne veut pas dire que le risque est écarté. Mais quand même, il s'est passé quelque chose, depuis des mois et des mois. La seule question que nous posent notamment nos amis étrangers, c'est Marine Le Pen va-t-elle être élue à cette élection? Eh bien, elle était très, très loin.
Ça a été très vite quand même.
Dominique Méda.
Non mais ça, c'est pour juste mettre un bémol. Son ascension a quand même été fulgurante depuis 2010. C'est
On parle
fort.
De l'ascension du Front National depuis les années 80, depuis 83. Donc on dit ça monte, c'est vrai que ça monte là.
Ça fait 40 ans que ça monte, c'est vrai.
Oui, ça monte. Mais depuis quelques années, c'est monté très fort.
Sylvain Crépon.
Non, moi je crois que le Front National se trouve aujourd'hui un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis les années Marine Le Pen, et même avant elle, son père, il était dans une perspective de prise du pouvoir. C'est-à-dire que finalement, il voulait être le parti qui allait incarner l'opposition et refonder le système politique à partir de sa problématique identitaire. Donc, d'être le parti des patriotes face aux cosmopolites. Aujourd'hui, au sein du Front National, et c'est une tendance qui est en train de se renforcer autour de Marion Maréchal Le Pen, on se rend compte qu'on est face à un principe de réalité que le Front National ne prendra pas le pouvoir. Il prendra pas le pouvoir par lui-même parce qu'il y a un plafond de verre, alors peut-être pas électoral, mais en tout cas politique. Il n'a pas d'alliés suffisamment puissant avec lequel il pourra gagner les élections, notamment présidentielles et ensuite législatives, qui sont encore plus compliquées pour lui traditionnellement. Et donc, se pose la question non pas de prendre le pouvoir, mais de participer au pouvoir. Et donc, ça change complètement la donne pour lui. Et donc, participer au pouvoir, ça veut dire avec qui? Ça veut dire avec son allié, j'ai envie de dire, naturel du point de vue de l'identité politique de ses électeurs, c'est-à-dire la droite de gouvernement. Ce qui nécessiterait pour lui de renoncer à certains points fondamentaux de son programme, tels que la préférence nationale ou alors la réforme du code de la nationalité, qui sont complètement contraires à l'esprit républicain. Mais si s'il pouvait mettre, absolument, et sur l'Europe, mais s'il pouvait mettre un peu d'eau dans son vin là-dessus, il pourrait être une force d'appoint de la droite, ce qui entraînerait nécessairement une recomposition de l'ensemble du système politique. Mais à mon avis, c'est la question qui se pose aujourd'hui dans la stratégie à venir du Front National.
Françoise Fressos, Thomas Legrand.
Et s'il est vrai que le Front National peine à prendre le pouvoir, je trouve que si jamais il arrive à faire une entrée à l'Assemblée nationale, sa seule présence risque de changer la tonalité des débats. Moi, j'ai été très choquée, surprise par la violence des échanges, très peu dans la tradition républicaine qu'il y a eu entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron pendant le débat d'entre-deux-tours. Et je pense que si le Front National entre à l'Assemblée nationale, on aura une tonalité de ce type-là et on aura aussi des problématiques posées notamment sur l'identité, sur l'immigration, qui risque de changer assez profondément la façon dont on organise le débat démocratique en France. Donc, je dis attention, le Front National, il y a peut-être une barrière, mais il est quand même très prégnant.
Thomas Legrand. Il y a un autre facteur aussi, c'est qui peut être un petit peu problématique, c'est quand Emmanuel Macron ou les Macroniens, ou les Macronistes, je sais pas comment on dit encore, pour des raisons assez stratégiques et des raisons pour les législatives, font un peu comme ce que De Gaulle faisait avec les communistes, vous savez, entre eux et nous, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'ils installent, ils disent ce nouveau clivage, c'est effectivement, comme le dit Marine Le Pen, les nationalistes, eux, disent-ils, et puis nous, ouverts, fermés, etc. En installant ce clivage, c'est assumer le fait que, puisqu'on est en démocratie, c'est quand même l'alternance, donc chacun son tour. Si l'opposition, c'est le Front National, c'est assumer le fait que si on échoue, ça sera autour du Front National. C'est un peu compliqué, ça, quand même.
Deux éléments que je voudrais verser au dossier, au micro de France Inter. Hier soir, nous avions pour invité Jean-Yves Dormagin, professeur de sciences politiques, et Jean-Yves Camus, spécialiste du Front National. Le premier disait que dans la construction du discours médiatique hier et du commentaire politique, on disait « Ah, bah, c'est une défaite pour le Front National, le Front National n'a pas fait autant qu'il aurait pu, dû ou voulu ». Ça, c'est une analyse qui se déduit par rapport à des sondages où on dit « Bon, bah, ils vont faire 40, ah, bah, ils ont fait 35, donc ils ont fait moins, c'est un échec ». Bah non, c'est pas un échec. Et Jean-Yves Camus répondait à l'idée que ça y est, la France avait mis, après les Pays-Bas et l'Autriche, un point final au jeu de domino des populismes qui avaient commencé avec le Brexit, enfin avec Trump, puis avec le Brexit. Jean-Yves Camus disait attention, attention à ne pas faire d'analyse quand même trop rapide sur le sujet. Le populisme, on n'en a pas fini en Europe. Je cède la parole à Sylvain Crépon, j'ai déjà trop parlé.
Oui, alors je pense que c'est une défaite politique pour le Front National, immanquablement, mais je pense que c'est une victoire symbolique énorme pour le Front National, mais cette victoire politique, j'irais même symbolique, elle existe depuis son ascension électorale. C'est-à-dire que maintenant, tous les échiquiers politiques français, depuis le début des années 1980, se positionnent par rapport aux problématiques qui sont lancées par le Front National. Et donc, si le Front National, j'ai envie de dire, va de défaite politique en défaite politique, tout en augmentant ses scores électoraux, ce qui peut paraître paradoxal, en même temps, tout le monde ne débat que d'une chose aujourd'hui dans le champ politique, c'est des problématiques du Front National, et là-dessus je pense que la droite de gouvernement a une responsabilité en reprenant ces problématiques. Et
là, se
joue la stratégie de François Duprat qui voulait amener justement la droite, donc qui était le principal idéologue du Front National dans les années 70, qui voulait amener la droite à se positionner sur les problématiques du Front National avec sa fameuse devise « L'électeur préférera toujours l'original à la copie ».
Ce que ne fait pas Macron d'ailleurs.
Thomas Legrand.
Ce que ne fait pas Emmanuel Macron. Il progresse sans mettre ce fameux charbon.
Gilles Finkelstein, un mot sur...
Juste un mot. À l'évidence, le populisme n'est pas fini et le Front National non plus. Il est enraciné et il est enraciné avec des électeurs qui sont des électeurs fidèles et qui sont des électeurs qui, pour l'essentiel, partagent les convictions de Marine Le Pen. Donc le Front National n'est pas fini. Il a un poids idéologique au-delà de ce qu'il recouvre sur l'ensemble de la vie politique. Donc ça... à l'évidence. Maintenant, je me place pas par rapport au sondage, je me place par rapport au score qu'il faut obtenir pour être élu président de la République, c'est 50%. Marine Le Pen a fait 34%. Elle est très loin, c'est la plus grande défaite si on met à part celle de 2002, c'est une défaite qui est extrêmement lourde, alors que cette fois-ci, on pensait que les choses risquaient d'être plus serrées.
Allez, une dernière pour la route. Jackie de Nîmes demande si Nicolas Hulot va être Premier ministre. Thomas Legrand, ça, on peut répondre par oui ou par non.
Aucune idée,
ou par aucune
non,
idée, ne se prononce
si
pas.
Parier sa chemise, je la parierai pas.
Bon, ok, personne n'a d'informations sur le sujet. Françoise Fressoz, non.
Je parie pas non plus.
Bah écoutez, ça me semble très sage. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce téléphone sonne. Merci amis auditeurs, vous étiez encore une fois très très nombreux. C'est intéressant quand on parle de politique ensemble. Il est 20h.